Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
On va lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, quelques versets au commencement et à la fin du chapitre. Hébreux, chapitre 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et à partir du verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Chers frères et sœurs, pendant quelques instants avec vous, j'aimerais méditer une partie de ce chapitre et en particulier cette étrange finale. Tous ceux-là n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est un chapitre qui nous renseigne sur ce qu'est la foi et quel est le plan de Dieu dans notre vie. Et cette question de la foi nous préoccupe car nous ne sommes pas toujours très bien fixés sur ce qu'elle signifie, sur ce qu'elle est. Et je crois que souvent, nous nous blessons aux aspérités de cette réalité de la foi telle que Dieu le présente dans sa parole. La foi. Je crois que parfois nous imaginons que la foi est une sorte de mécanisme par lequel nous avons acquis des sortes de droits sur Dieu et qu'en quelque sorte la foi nous permet de manipuler la volonté de Dieu. Et en particulier, comment Dieu peut-il permettre à ceux qui ont la foi de souffrir dans leur vie et dans celle de leur bien-aimé? Comment Dieu peut-il accepter la souffrance de ceux qui l'aiment et qu'il aime? En disant le début de ce chapitre, il me semble que nous voyons le triomphe de la foi qui obtient l'exaucement. La vie d'Abraham, la vie de Moïse, celle de tous ces héros de la Bible, et nous avons comme une récapitulation de tout l'Ancien Testament dans ce chapitre, et d'abord tout nous est présenté comme une succession de miracles. Ces hommes et ces femmes vont de miracle en miracle dans l'exaucement. Oui, nous pensons à David et Goliath, à Daniel dans la fosse aux lions, et nous nous repassons devant l'esprit toutes les promesses que Dieu nous a faites, que 1000 tombent à ton côté, avons-nous lu tout à l'heure, et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Et nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Et puis soudain, voilà l'épreuve, la persécution, l'emprisonnement, la maladie ou la mort. Et nous crions à Dieu de toutes nos forces. Et nous espérons de toute la force de notre espérance, et nous croyons de toute la force de notre foi, et l'exaucement tel que nous l'imaginions nous échappe. Et c'est alors que le doute nous vrille le cœur. Comment est-ce possible? Les promesses seraient-elles sans effet? Où est notre foi? Et il est certain que là, nous pouvons passer par des affres qui nous torturent. Même un homme comme Hudson Taylor, dont je pense vous connaissez tous l'histoire, qui fut, il y a un siècle, celui qui fit beaucoup pour faire connaître la puissance de la foi et la réalité de la vie de la foi aux chrétiens de son temps, Hudson Taylor, qui avait incontestablement le don de la foi, le charisme de la foi, fut précipité dans l'abîme le plus noir quand, alors qu'il se reposait en Suisse, télégramme sur télégramme arrivait de Chine pour lui apprendre que des missionnaires qu'il aimait, les missionnaires de sa mission, par dizaines et par dizaines, avaient été mis à mort, souvent dans des tortures effroyables. Et plus récemment encore, comment expliquer le sort de ces missionnaires du Zaïre qui, au moment de la rébellion, furent mis à mort, ces pasteurs tchadiens, dont plusieurs sont morts enterrés vivants, il y a quelques semaines ou quelques mois. Et aujourd'hui, ces pasteurs vietnamiens, dont nous ne connaissons pas exactement le sort, mais dont nous croyons savoir que quelques-uns ont été certainement massacrés. Et que penser à nos frères et sœurs de Russie et d'ailleurs, qui aujourd'hui, tandis que nous sommes rassemblés dans la liberté, sont en prison et souffrent les moqueries et les chaînes. Il est bon, me semble-t-il, de lire alors cette finale du chapitre 11 des Hébreux. Il faut, me semble-t-il, avoir une idée juste de la foi et de la prière de la foi. La foi n'est pas une assurance tout risque dans cette vie terrestre. Ce n'est pas une sorte de bulle qui nous sert de cuirasse et où nous sommes hors d'atteinte et où finalement nous n'aurions rien de commun avec ceux au milieu desquels nous sommes placés. Abel avait-il moins de foi que Caïn, son assassin, parce qu'il a été mis à mort? L'apôtre Jacques avait-il moins de foi que l'apôtre Pierre, alors que tout au début de l'Église chrétienne, ils furent tous les deux jetés en prison, et que le premier fut mis à mort, et que le second fut délivré par un miracle extraordinaire? Était-ce parce que Pierre avait plus de foi que Jacques? Rien dans le texte ne nous le fait croire. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est le moyen de percevoir, autrement que par les sens physiques de notre corps, la réalité. La foi nous apprend que la réalité réelle, la réalité vraie, est invisible, imperceptible à nos sens, hors d'atteinte de notre raison. La foi, c'est la manifestation de l'invisible, et la foi nous permet de nous emparer en quelque sorte de l'invisible et de vivre d'avance dans ce domaine où nos sens sont impuissants. C'est le moyen de saisir et le moyen d'être saisi. C'est la ligne de communication qui s'établit entre nous et Dieu, entre le visible et l'invisible. Et la foi permet à Dieu de s'emparer de nous et à nous permettre d'accomplir son plan. Et le plan de Dieu dans la vie de tout homme est de se glorifier, c'est-à-dire de faire voir aux hommes qui ne le connaissent pas ce qu'il est en réalité à travers la vie de ses enfants. C'est ça, glorifier Dieu, c'est permettre à ceux qui nous voient d'apercevoir quelque chose de la réalité invisible de Dieu. Notre foi rend visible et manifeste visiblement dans notre vie les réalités invisibles de Dieu, c'est-à-dire sa puissance, c'est-à-dire son amour et sa miséricorde, c'est-à-dire la réalité de sa justice et de sa sainteté et de sa grâce en nous. Si bien que nous voyons que il me semble voir deux moyens dont Dieu se plaît à glorifier son nom, et nul ne sait de quel côté Dieu l'utilisera et de quelle manière Dieu l'utilisera. Et je crois que c'est le même Dieu et la même foi qui fait que Daniel ferma la bouche des lions et que d'autres furent mis à mort, qu'Étienne fut tué en martyr. Le but de la foi n'est pas notre sécurité et notre bien-être sur la terre, mais la gloire de Dieu. Et dans le premier cas, en délivrant Daniel de la gueule des lions, Dieu veut montrer aux hommes qu'il a parfaite et souveraine autorité sur sa création. C'est lui qui est le créateur, et c'est lui qui reste le roi, c'est lui qui reste le souverain. Et d'un geste, d'un mot, d'une pensée, il peut fermer la gueule des lions et conduire tout l'univers selon son plan. Mais dans le cas d'Étienne, Dieu démontre aussi sa gloire. Il veut montrer la grandeur de l'amour qu'il a pour les hommes et la grandeur de l'amour dans le cœur des hommes pour lui. Et il démontre qu'ils sont prêts à se donner pour sa cause, qu'ils sont prêts à donner leur vie pour sa cause, car il est vrai, comme on l'a dit, qu'il ne vaut pas la peine de vivre pour une cause pour laquelle on n'est pas prêt à mourir. Et il faut aussi que Dieu démontre que ceux qu'il connaissent sont prêts à mourir pour lui. Si bien que nous voyons que la foi est une relation véritable qui s'établit entre nous et Dieu dans l'amour. Et c'est la foi qui nous permet d'entrer dans ce plan de Dieu, dans ce plan de gloire, afin que Dieu reflète dans nos vies sa volonté. Il me semble que cela est démontré dans cette histoire de Job dont on vous a parlé il y a peu de temps. Nous voyons clairement dans l'histoire de Job qui nous est dévoilée que si Job est disciple de l'Éternel, ce n'est pas par intérêt personnel. Ce n'est pas pour tous les bienfaits qu'il peut retirer de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a la vie facile et parce qu'il est riche. Dieu démontre que Job lui est attaché parce qu'il l'aime. Et que malgré les coups qu'il frappe, il continue à aimer Dieu, sachant que c'est un Dieu qui l'aime, qui le frappe. Sans comprendre. Il est, par la foi, la démonstration du lien qui existe entre lui et Dieu. Il me semble que c'est aussi ce que nous voyons démontrer dans la vie de Jésus. Certes, les souffrances de Jésus sont sans comparaison avec les nôtres, puisqu'il souffre en tant que fils de Dieu. Mais je ne crois pas qu'il faut évader la réalité de l'incarnation. Il était vraiment homme, sans tricher. Et c'est en tant qu'homme qu'il a voulu souffrir, qu'il a voulu être l'homme de douleur, habitué à la souffrance et portant notre souffrance. Et nous voyons que lorsqu'il sombre dans l'abîme de souffrance de la croix, il a cette lutte à Gethsémané, cette lutte de la foi, pour accepter la volonté de Dieu et pour finalement articuler ce qui m'apparaît la formule suprême de la foi, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est, me semble-t-il, ce que nous devons toujours retrouver, que si nous prions, si nous avons foi, si nous vivons, ce n'est pas afin que notre volonté fléchisse celle de Dieu, mais pour que notre volonté si rétive se soumette à la volonté souveraine. Et c'est ainsi que notre foi doit être dans le droit fil de la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu peut être une délivrance spectaculaire, un miracle qui nous fait sortir triomphant de l'épreuve, mais peut être aussi que ce soit la souffrance et la mort. La volonté de Dieu n'est-elle pas que nous connaissions la communion avec la souffrance de Jésus? Et parmi les promesses de Dieu, ces promesses qu'il faut aussi accomplir, inconsciemment ou consciemment, nous trions toujours celles qui nous font plaisir. Et nous oublions certaines paroles qui sont aussi des promesses. Vous aurez des tribulations dans le monde. On dira du mal de vous. On vous persécutera. Celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est ainsi que la foi comme nous la voyons exposée dans ce chapitre 11 des Hébreux, nous montre qu'elle doit être avant tout soumission et acceptation et contemplation de la volonté de Dieu. Peut-être ce matin Dieu veut-il nous parler en nous faisant comprendre que peut-être nous avons dans notre souffrance à rendre gloire à la miséricorde et à l'amour d'un Dieu souverain. Ou peut-être veut-il dans notre souffrance que nous démontrions sa toute-puissance et sa souveraineté sur le mal, sur la matière et sur la mort. Veut-il faire triompher la vie visiblement sur la terre comme il le fait sur le plan de l'éternité. Mais quel que soit le chemin par lequel nous devions passer, notre foi doit permettre à notre vie de laisser transparaître la véritable nature de Dieu, sa toute-puissance et son amour sans limite. Et notre foi doit être cette confiance enfantine, cette confiance de tous les instants en un Dieu qui nous a montré son amour